L'exposition caritative Live Life se tient en ce moment même jusqu'au 6 novembre au 16 rue des Minimes à Paris dans le 3e arrondissement. Rencontre avec Jennifer Weston, une artiste photographe pour qui la priorité n'est pas uniquement d'obtenir des clichés, mais avant tout de pouvoir partager sa passion pour la nature et sensibiliser le plus large public possible à la protection et à la conservation de la nature. Ses œuvres sont visibles jusqu'au 6 novembre, au 16 rue des Minimes à Paris, dans le 3e arrondissement.
J'ai toujours été passionnée de photographie depuis l'enfance. Je suis complètement autodidacte et j'ai avant tout une passion pour la beauté de notre monde. J'ai vraiment une sensibilité à l'environnement et à la faune et la flore. Pour moi, il est important aujourd'hui, si vous voulez, d'agir sur les valeurs fondamentales. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui souffre quand même beaucoup, un monde qui est axé sur la matière. Et on nous fait croire, si vous voulez, que le bonheur va dépendre de posséder un joli sac, une jolie paire de chaussures. Mais en l'occurrence, ces objets de consommation, à mon avis, nous rendent plutôt malades. Et donc, je décidais, si vous voulez, à travers mon travail, de montrer que la vraie beauté, c'est la beauté qui nous est offerte gratuitement et que notre planète nous offre. Et pour ainsi dire, montrer cette beauté pour qu'on en prenne conscience et qu'on protège notre environnement.
Alors aujourd'hui, je me trouve sur le lieu de l'exposition. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos œuvres ?
Alors, celle-ci est une œuvre importante. Alors, elle s'appelle Real Diamonds, les vrais diamants. C'est une œuvre qui est tirée de ma série Axis Mundi. Alors, qu'est-ce que c'est l'Axis Mundi ? L'Axis Mundi, c'est le lien, si vous voulez, entre la terre et le ciel, entre le monde matériel et le monde spirituel. L'Axis Mundi, en d'autres termes, il s'appelle aussi le cinquième point. Et le cinquième point, c'est le point du centre. On a les quatre points cardinaux et le cinquième point, c'est donc le point du centre qui relie la terre au ciel. Et alors ici, ce qui s'est passé, c'est donc une œuvre qui va regrouper quatre fois la même image. Voilà, j'ai pris la même image, je l'ai multipliée par quatre, c'est ce qui s'appelle la symétrie miroir ou la géométrie sacrée. Et si vous voulez, en multipliant cette même image, je me suis aperçue que nous avions une cinquième image qui était créée et que cette cinquième image montrait l'Axis Mundi. Voilà. Et donc, on peut voir que plusieurs entités sont dessinées sur cet Axis Mundi. La première image est tout simplement de l'eau qui a cristallisé sur la nature, d'où cet aspect de pierre précieuse, de diamant. C'est juste l'eau qui a cristallisé sur la nature et cette image, je l'ai prise dans le nord des États-Unis, voilà, dans l'Oregon. Alors, je vais me déplacer, je vais vous expliquer. Si vous restez ici, restez là, vous allez pouvoir voir comme une entité. On peut imaginer comme un taureau qui est dessiné. Voilà. On peut voir. Et alors, le but, c'est que, en fait, les plans multidimensionnels qui sont cachés, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, grâce à ce procédé, vont apparaître. C'est ce que j'explique, que le monde, nous ne sommes en fait jamais seuls, on est entourés de vibrations qui existent, qui vont s'incarner dans d'autres corps. Et ici, par exemple, sur ce jeu de miroir, on voit en effet qu'il y a une entité. Alors, il y en a beaucoup des entités. On peut voir une tête de taureau, une tête de louve, un ours en bas. Chacun va voir quelque chose de différent, mais c'est pour vous montrer qu'on n'est pas seul et qu'en effet, donc, des entités, si vous voulez, vont apparaître. J'ai d'autres séries Axis Mundi, notamment j'ai fait un travail avec l'eau qui est très important, ou le feuillage. Et c'est dingue parce que vous allez voir des Bouddhas apparaître, des têtes d'animaux. Il y a notamment un Axis Mundi qui s'appelle Troubadour. Si vous regardez, vous verrez la tête d'un troubadour. C'est assez incroyable. Voilà, c'est un travail, si vous voulez, sur l'interprétation visuelle de ce cinquième point. Voilà, on n'est pas seul. Et d'autres entités sont là, elles existent. Et voilà, je pense que c'est une porte pour les voir.
Est-ce que vous avez une préférence pour les grands formats ?
Alors, oui, bon, on va pas se mentir. Je pense que quand une photographie est bonne, elle est bonne soit en petit, soit en grand. C'est pas quelque chose qui détermine si une photographie est bien. Mais la seule chose, c'est que quand on a la possibilité de faire une image qui est grande, évidemment, l'impact est encore plus fort. C'est comme au cinéma et à la télé. Quand vous allez voir un film au cinéma, quoi qu'on en dise, vous allez le vivre beaucoup plus fortement que chez vous sur votre télévision. C'est la même chose pour la photo. Voilà.
Et donc on passe à cette œuvre-là, elle est super belle cette photo. Comment est-ce que vous avez fait pour travailler?
Oui, alors très bien. Ce qui m'importe, c'est de photographier l'animal comme si je vous prenais vous en photo, c'est-à-dire de faire un vrai portrait d'énergie de l'animal. Ce qui est important, c'est que j'arrive à capturer les vibrations et l'énergie de l'animal, c'est-à-dire de le déplacer de son contexte. Je suis pas là pour faire de la photo-reportage, c'est pas ce que je fais, c'est que j'essaye d'établir juste un vrai portrait, comme un être humain en fait.
Donc ça, c'est un orang-outan.
Oui, il a les paupières fermées. Alors, ces pigments sont naturels, il n'y a pas de retouche sur ma photographie. Alors, je vais insister sur des contrastes et sur la lumière, mais c'est tout, hein. Je n'ai pas maquillé l'orang-outan. Et alors, en fait, il s'appelle Dream. Alors, ici, à gauche, vous avez Dream 1, et à droite, vous avez Dream 2. Ça s'appelle un diptyque. Ces deux photographies fonctionnent ensemble et racontent une histoire. Et cette histoire, c'est tout simplement qu'on n'est pas les seuls à pouvoir rêver. Les animaux aussi rêvent. Et il est ici notamment question de cet orang-outan qui est enfermé derrière sa grille et qui s'échappe, si vous voulez, dans son monde intérieur. C'est cette connexion spirituelle que j'ai voulu rendre visible, en fait. Et c'est toujours pareil, il y a plusieurs divinités, même dans mes photographies un peu plus simples. Ici, vous avez la tête d'un aigle. Donc, quand vous reculez, vous pouvez aussi voir un aigle. Et là, ce paysage donc, que j'ai pris dans l'Oregon, pareil, si on se recule, vous avez aussi comme un animal qui apparaît. Et pour moi, la chose qui est très importante de mon travail, c'est que tout est en couleur, parce que notre mode est en couleur. Donc, il y a des correspondances de doré entre ce paysage et les paupières de l'orang-outan. Et l'harmonie, si vous voulez, des couleurs et les vibrations des couleurs sont aussi importantes.
Et puis par ici, on a...
Alors, on a des lionnes. Alors, c'est aussi donc un diptyque qui s'appelle Alter Ego. Alors ici, il n'est pas forcément question de divinité ou de plans cachés qui apparaissent, mais c'est plus un travail de vibration et de sentiment. À gauche, on a deux lionnes qui sont côte à côte, très calmes, presque symétriques, qui regardent de façon déterminée et apaisée l'autre lionne d'en face, qui, elle, si vous voulez, est plus en colère. Donc, elle ouvre la bouche, on voit ses dents, et elle est seule. Et donc, en fait, je l'ai appelée alter ego, tout simplement pour exprimer, si vous voulez, que le groupe donne un sentiment, que la solitude en donne un autre, que ça nous concerne tous et que c'est juste voilà, un travail de vibration sur les sentiments. Ce sont nos alter-égos.
Pourriez-vous nous parler brièvement de votre rencontre avec les Lady Boys ?
C'est un travail difficile que j'ai commencé il y a 6 ans. J'étais en Thaïlande et je suis restée quelques mois en Thaïlande et j'ai rencontré donc ces femmes qui étaient des hommes avant et qui ont changé leur corps de façon définitive, qui ont eu recours à la chirurgie esthétique pour le visage, qui ont pris des pilules pour d'hormones pour faciliter, si vous voulez, cette chirurgie, cette transformation et qui, dans les cas les plus extrêmes, ont coupé le pénis et formé un sexe de femme. 90% des Lady Boys vivent de la prostitution. Seulement 10% vont vivre comme vous et moi et vont aller à l'école. Ils font partie de milieux aisés. Et il faut savoir que ce troisième sexe en Thaïlande est tout à fait accepté. En fait, on explique que la religion, si vous voulez, en Thaïlande, autorise ces êtres humains à changer de sexe parce qu'on dit qu'ils ont vécu une mauvaise incarnation. C'est des photographies qui sont difficiles. Là, pour le coup, c'est un travail en noir et blanc. Et c'était des photographies où vous les verrez en principalement déshabillées dans un milieu hostile de la prostitution. C'est plutôt du photojournalisme dans un milieu voilà, difficile.
Est-ce que votre travail est influencé par d'autres artistes ?
Alors, ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que j'aime infiniment l'art. Je pense qu'on en a besoin. J'aime énormément la peinture. J'aime des photographes, des sculpteurs. J'en aime beaucoup, mais j'ai pas d'influence directe. Je vais avoir une influence globale de peut-être de tout ce que j'ai vu depuis que je suis enfant. Voilà, je vous dis, je suis très très sensible à l'art, je suis très sensible à la musique. La musique m'aide énormément. Quand je fais le choix des photos, quand j'essaye de donner un titre, les vibrations de la musique vont beaucoup m'aider également. J'habite Paris, c'est une ville qui est magnifique. C'est pas toujours facile de vivre à Paris non plus. On a besoin d'avoir des espaces verts, on a besoin de respirer. Enfin, moi, j'en ai besoin pour me sentir mieux. Et mon travail démarre d'un besoin essentiel de me reconnecter à l'environnement et de décrocher de cette vie de consommation parce qu'on s'y perd et parce qu'au bout d'un moment on s'y sent mal. Et donc mes sources d'inspiration, il n'y en a pas. C'est juste, pour être très franche, c'est juste un mal-être que je vais avoir besoin d'aller catharsiser.
C'est pour ça que vous voyagez beaucoup ?
Oui, c'est pour ça que je voyage beaucoup. C'est parce que j'ai besoin de me confronter à d'autres choses, et notamment un des voyages les plus difficiles que j'ai fait, c'était d'aller en Antarctique, de passer un mois sur un brise-glace, et là j'ai découvert que j'avais le mal de mer. Autant vous dire l'enfer, parce que vous restez un mois sur un bateau et vous avez l'impression d'être pendant un mois sur des montagnes russes. C'est l'enfer, je vous assure, c'est l'enfer. Mais par contre, une fois que vous posez un pied sur des îles à côté de l'Antarctique et en Antarctique, vous êtes télétransporté aux origines du monde. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel et ça vaut toutes les petits inconforts. Voilà.
Et puis pour terminer, quels sont vos prochains projets ?
Alors, mes prochains projets... Alors, j'ai eu la chance... d'avoir une grande exposition solo sur les berges de Seine avec le haut patronage de l'UNESCO, de Ségolène Royal et de la mairie de Paris. J'ai eu beaucoup de chance, la ville de Paris a produit cette exposition. Et si vous voulez, mon but est que cette exposition voyage et de faire un don, si vous voulez, pour les enfants grâce à cette exposition dans les milieux difficiles. Voilà.
Jennifer West-John pose son regard photographique sur le monde à travers ses voyages afin de protéger une nature fragile et menacée. Ses œuvres sont visibles jusqu'au 6 novembre, au 16 rue des Minimes, à Paris, dans le 3e arrondissement. Si vous voulez avoir plus d'infos, faites le www.jenniferwestjohn.com.